A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Chamoiseau est là, l'horloge de la créolité et le sablier de la mondialité, pas loin. Patrick Chamoiseau, né dans un coin de poésie martiniquaise à Fort-de-France, revient nous entredire deux, trois choses sur ses frères migrants, son dernier livre, dans le cadre des Voix d'Orléans, rencontre de la francophonie qui se déroulait récemment. On l'aura compris, celui qui balance toujours entre chant de langue créole et jeu de langue française ne vient jamais les mains vides. Nous nous promènerons dans son enfance créole, mais aussi dans le deuil de sa mère, Man Ninotte, avec la matière de l'absence, et de façon plus inattendue dans le noir de son polar « J'ai toujours aimé la nuit ». Chamoiseau, Goncourt 92, pour Texaco, vous vous en souvenez, grand marqueur de parole, c'est un moment en sol majeur. Bonjour Patrick Chamoiseau.
Bonjour.
C'est quoi un marqueur de parole?
Oui, c'est une expression que j'avais utilisée, je crois, dans Solibo Magnifique, pour montrer que la problématique des écrivains antillais d'une manière générale, américains d'une manière générale aussi, était assez particulière parce que nous n'avions pas dans nos antériorités de bibliothèque. Quand je me tourne pour savoir quels sont mes pères culturels ou identitaires, je n'ai pas de bibliothèque. En revanche, j'ai une oraliture faite de contes, de proverbes, de chants, etc. Donc c'est le conteur. Et le problème, c'est que la littérature antillaise s'est développée un peu de manière sous les auspices de l'aliénation, un peu ce dont parlaient Fanon, Peau Noire et Masque Blanc. Donc cette littérature avait tourné le dos à tout le monde de l'oraliture et notamment au conteur créole. Donc j'avais fait tout un travail dans Solibo Magnifique de récupération à la fois des stratégies narratives du conteur mais aussi de tous les principes de l'oralité. Donc du coup, je n'étais pas un écrivain ordinaire, je devenais déjà un marqueur de parole, c'est-à-dire celui qui va récupérer la parole perdue et essayer de l'inscrire sur la page avec tout ce que nous donne l'écriture.
Merci pour ce mot, l'oraliture.
Oui, c'est un terme utilisé par les Haïtiens.
On est très heureux de vous recevoir en sol majeur. C'est une émission, je vous le rappelle, parce que vous avez du décalage horaire dans les yeux, ça se voit, qui accueille bien sûr la musique, mais qui parle aussi du lien au sol. Donc je vous emmène sur une terre première, celle du souvenir.
Mon Dieu, comme vous êtes français! La Martinique est un témoin, un lien, un point d'où la France doit rayonner et ce sera une de vos tâches.
M comme
les enfants.
Machine à remonter le temps.
Ah, cette voix du général de Gaulle à Fort-de-France en 1964 vous donne le sourire, Patrick Chamoiseau.
Ah ouais, j'adore. D'abord parce qu'il y a une rhétorique qui est absolument étonnante. Hein. Il y a un colonialisme paternaliste qui était assez curieux, mais qui s'exprimait sans aucun complexe. Et puis, il y a l'essai de petit quiproquo, hein, puisque j'étais là, je ne sais plus quel âge j'avais, sur la savane, et j'ai assisté au discours. Hein, il y avait des milliers de personnes. Et quand il dit « mon Dieu, que vous êtes français », il y a deux raisons. Hein. On était en pleine période de décolonisation, etc. Et il pensait que lorsqu'il serait arrivé en Martinique, Césaire lui dirait « bon, nous voulons l'indépendance, etc. » Il pensait qu'il allait entrer dans un pays hostile et il s'aperçoit que tous les Martiniquais sont complètement fascinés par la personne et personne ne parle d'indépendance à l'époque. Donc il était vraiment très très surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Donc c'est pourquoi il s'est exclamé « mon Dieu, que vous êtes français !» Alors ça aurait pu s'arrêter là, mais... Le problème, c'est que comme il prononce de manière un peu particulière, et nous, on n'a pas cette oreille-là, on a entendu « mon Dieu, que vous êtes foncé !» Ce qui fait que pendant des années, on a toujours eu cette blague « De Gaulle a nous a trouvé un peu foncé, etc. » Donc ça me fait toujours rire, et ça fait rire tous les Martiniquais de ma génération.
Très joli malentendu. Les lecteurs de Chamoiseau le savent bien depuis une enfance créole. Vous êtes né donc dans le Fort-de-France des années 50, et j'ai retenu en vous lisant des images de maisons en bois pourri,
ouais,
tenues par des propriétaires syriens. Et puis vous, dans cette affaire qui est un peu le négrillon né avec l'âme d'un tueur, prêt à exterminer un peuple ou deux. Lesquels ?
Ce n'est pas pour rien qu'on procède pour les enfants dans toutes les cultures à une éducation. Hein. L'enfant, c'est une matière brute et la cruauté enfantine, elle peut être sans limite. Donc il faut véritablement un petit peu éduquer. Donc moi, je me retrouve avec tous mes pulsions meurtrières, en tout cas à la fois très attiré par la nature et en même temps avec cette sorte de désir de se protéger des bestioles, des rats, des araignées, enfin bon, de tout ce qui existait dans la maison.
Vous étiez en zone de guerre. Hein.
J'étais en zone de guerre. Alors c'était assez extraordinaire parce que comme c'était une vieille maison en bois avec plein de recoins, dans une ville de Fort-de-France qui était encore un peu insalubre, il y avait encore plein de bestioles qui circulaient, la campagne n'était pas loin et j'ai passé énormément de temps à observer les araignées, à regarder les ravets, à les tuer, à les brûler, à les piquer. Enfin bon, c'était une activité un peu incroyable.
Est-ce que pour vous, c'était un monde de pauvreté ou de poésie ?
C'est un monde de poésie. La pauvreté n'existe pas pour l'enfance. Moi, je voyais bien les gens qui passaient dans la rue et qui voyaient notre vieille maison en bois avec le toit rouillé qui coulait, etc. Et ils avaient l'impression d'être devant un taudis et qu'ils se disent « bon, ces pauvres gens doivent vivre en enfer ».
Alors que vous étiez dans un château
moi,
fort.
Moi, j'étais dans une sorte de palais étrange, plein de dons, de recoins, de coincements, enfin quelque chose qui était absolument inépuisable pour ma curiosité enfantine. Je n'ai jamais eu le sentiment de vivre en enfer ni de vivre dans un taudis.
Alors, vous êtes un tueur né dès le départ, Patrick Chamoiseau, mais vous êtes aussi le dernier bout des boyaux de Manninette.
Oui, c'est une expression créole pour désigner le dernier enfant. Alors, quand la mère présente sa famille, les familles étaient très nombreuses, hein, ça allait entre 15 et 5-6 enfants. En plus, les femmes perdaient beaucoup d'enfants en fausse couche, il n'y avait pas de contraception. Donc, lorsque la mère présentait ses enfants, elle présentait les nés, les machins, et puis elle dit le dernier petit bout de mon boyau, c'était le dernier. Donc, j'étais le dernier petit bout de son boyau.
Jusqu'à votre entrée à l'école, on a l'impression que vous vivez dans un monde complètement créole, on va voir ça, mais en tout cas, arrive l'école française et là, elle fait son œuvre sur vous.
À l'appel de son nom, le négrillon bondit sur ses pieds comme un élastique, bafouilla son présent et retomba dans sa place en s'aplatissant derrière celui qui se trouvait devant. Là, le souffle court, il attendit la fin du monde. Le maître, hélas, n'avait pas eu le temps de le voir et le cherchait des yeux. Qu'ai-je cru ouïr ? Notre classe serait-elle hantée d'une présence fantomatique à l'instar de Roncevaux qui, depuis le preux Roland, effraie le voyageur ? Montrez-vous, s'il vous plaît. Le négrillon, à moitié mort, dut se lever et se coincer le ventre contre le banc pour demeurer debout, tête pendante, épaules caves et le souffle abîmé. Comment vous appelez-vous ? En prononçant son nom, le négrillon suscita, malgré l'effroi ambiant, de petits ricanements parmi les petites gens. Ainsi, il eut conscience de deux choses insoupçonnées auparavant et qui allaient empoisonner ses jours d'écolier. Son nom était un machin compliqué, rempli de noms d'animaux, de chats, de chameaux, de volatiles et d'os. Comme si cela ne suffisait pas, il se découvrit affublé d'une prononciation réfugiée en bout de langue qui l'amenait à téter les syllabes les plus dures et à empâter les autres. Cela transforma son nom en un mâchouillis d'un haut comique qui acheva son anéantissement. Le maître, heureux bonheur, n'insista pas. « Je vous sais gré d'avoir daigné me laisser entrevoir votre auguste personne, cher monsieur. Piaisant, nenni, présent, nada, présent, ah. »
Voilà l'entrée de Patrick Chamoiseau donc, dans l'école française de Fort-de-France. C'est une terrible douche froide que cette école française.
Oui, oui et non. D'abord, ce n'était pas... J'étais créolophone, donc la petite voix que j'avais dans la tête, c'était le créole. Mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas de contact avec le français. C'est là une situation un peu paradoxale. On peut dire, d'une manière générale, j'avais une situation diglossique, c'est-à-dire... Une langue matricielle qui est le créole avec laquelle j'avais découvert le monde, que j'exprimais ma sensibilité. Et puis une langue française qui n'était pas étrangère, mais qui n'était pas usuelle au sens d'habitude, coutumière, etc. C'était assez distant. Ce qui fait que lorsque j'arrive à l'école, et qu'il me faut parler en français, écrire en français, raconter en français, je suis forcé de traduire tout ce que j'ai dans la tête et qui est en créole.
Double travail.
Et comme on était véritablement en période post-coloniale ou coloniale encore largement, il y avait un absolu linguistique qui fait que la langue française devrait être d'une pureté absolue. Il ne fallait pas l'infecter avec des mots créoles ou avec des tournures, des créolismes. Le maître faisait très très attention à prononcer en français sans utiliser l'accent créole, qui pourtant il avait, et c'était, il exagérait sur les R. Ce qui fait que, plutôt que de risquer de me faire railler, gronder par le maître et railler par les élèves, mes confrères, j'ai préféré devenir me taire. Ce qui fait que j'étais absolument muet à l'école.
Ouais. Ce maître d'école fait figure véritablement de censeur. Est-ce que dans cette enfance, il a fallu faire taire en vous le créole, finalement, pour devenir français ?
Ah oui, c'est-à-dire que la conquête de la langue créole n'était pas simplement la conquête d'un outil de communication ou d'expression, c'était véritablement la conquête d'une humanité. C'est-à-dire, quand on parlait créole, on était un nègre dans les champs de canne, esclave, enfin bon, c'était lié à tout ce qu'il y avait de négatif dans cette société coloniale. Pour nous, la langue française était la langue de la poésie, la langue des livres, la langue des gendarmes, la langue de l'administration, la langue de Gaulle, la langue de la radio, la langue de la télé qui commençait à apparaître, c'était la langue du monde, quoi. Et tout le reste, c'était des négreries dont il fallait s'éloigner.
Pourtant, il y a un adage créole, je ne sais pas si c'est du créole haïtien, qui dit « parler français n'est pas gage d'intelligence ».
Oui, parler français avait dit l'esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on parle en français qu'on est intelligent ou qu'on a de l'esprit. Et oui, c'est ça, c'est les paradoxes. Il y a une vieille sagesse créole qui est née dans les plantations et qui a très rapidement pris une certaine distance par rapport à tout cela. Mais il est sûr que si le proverbe existe, ça veut dire que beaucoup de gens prenaient l'usage de la langue française pour véritablement montrer leur humanité et donner l'impression qu'ils étaient plus intelligents qu'ils ne l'étaient en réalité. D'ailleurs, une bonne part de la fascination que Césaire a exercée sur le peuple martiniquais provient de sa manière d'utiliser la langue française. Nous sommes assez fascinés par ceux qui utilisent la langue de manière impeccable.
Et donc, ce que vous appelez les capots culturels vous ont, Patrick Chamoiseau, apparemment contaminé, assimilé, envoûté peut-être.
Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille ?
Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi.
Oui. Désignez-moi exactement l'endroit.
Par ici.
Ah, ici, oui. Et où ça, par ici ?
Là.
Oui ?
Ah, peut-être bien là. Entre les deux, quoi.
Entre les deux, oui. Juste entre les deux. Mmh. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche ? Là où je mets mon doigt.
Il me semble bien.
Ouais, ouais. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt ?
Aïe ! Ah oui ?
Je n'aurais pas songé à donner une fête dans un endroit pareil. Tu sais, Dina, je pense que nous ne devrions pas faire ça. Ce n'est pas correct. Après tout, personne ne m'a invité. Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis.
Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con.
Voilà pour votre en sol majeur, Patrick Chamoiseau, un peu de Brassens, d'Alice au Pays des Merveilles et de Louis Jouvet. Vous retrouvez là le dictat de la culture française tel que vous l'avez vécu ?
Non, ce n'était pas véritablement un dictat, puisque nous n'avions pas d'opposition marquée à ce qu'on nous imposait. Nous avions une incapacité à passer d'un univers créole, avec un imaginaire créole, une manière de voir les choses créoles, à cet univers qui était complètement français. Et donc on avait de la difficulté, mais on recevait tout cela avec un plaisir évident. Alors c'était fait pas en pleine joie, puisque moi j'ai toujours souffert à l'école, j'ai jamais aimé l'école, et tout ce que j'apprenais à l'école c'était un peu forcé. Mais
et ça m'est... muette.
Pardon.
Et de façon muette. C'est bon pour l'imaginaire, ça.
Alors voilà, ça c'est comme j'étais muet, j'ai compensé très largement par l'écriture. Je donnais des rédactions qui étaient très élaborées.
Et ce qui n'entravait pas cet imaginaire créole ?
Enfin, ça l'a entravé. C'est-à-dire que mes premiers poèmes étaient complètement aliénés. Hein. Je faisais des poèmes sur les sapins, la neige, les pommiers, les corbeaux, les trucs. Je reproduisais ce que je voyais dans les livres scolaires. Donc, il faudra attendre quelques années avant que je me dise mais pourquoi je ne parle jamais de manguier, de gommier, de d'ananas, de pied coco, etc. Donc, il y a un travail de désaliénation d'une certaine manière, en tout cas de prise de conscience d'une réalité qui est différente. Mais nous étions complètement immergés de par l'école, dans un univers qui était totalement français. Glissant a une belle phrase dans Le Soleil de la Conscience qui va bien expliquer le truc. Il dit que quand j'arrive à Paris, j'avais la vision du fils et le regard de l'étranger. C'est exactement quand je suis venu à Paris quelques années plus tard. Tous les paysages français, tous les paysages de Paris, les ponts, etc., je les connaissais puisque je les avais fréquentés dans les livres scolaires, dans les livres d'histoire, etc. Donc j'étais à la fois, quand j'arrive en France, je suis un fils de la culture française, et en même temps, en tant que créole américain, j'ai la distance et je suis un étranger en même temps. Donc c'est cette richesse qui est une richesse horizontale et qui confère au colonisé ou au dominé plus d'amplitude que le dominant. C'est-à-dire que le dominant reste vertical dans sa langue, ses valeurs, sa vision, ses absolus.
Monolithique.
Monolithique, alors que le dominé, il a une base plus large puisqu'il a sa propre vision et puis il accède d'une certaine manière à la vision du vainqueur.
Oui, mais il joue les équilibristes.
Il joue les équilibristes. Après, il faut savoir négocier. Et ça, c'est tout le travail que nous avons aujourd'hui puisque nous sommes sortis de l'affrontement manichéen pour nous rendre compte qu'avec la colonisation et du fait de la colonisation ou à cause de la colonisation, les cultures, les civilisations, les langues, les dieux, les phénotypes, les visions du monde se sont mélangées et que nous sommes dans des situations relationnelles et que plus notre arbre relationnel, c'est-à-dire notre capacité à englober toutes les stimulations culturelles qui nous viennent de partout, plus cette capacité est grande, mieux nous sommes.
À quoi ressemblaient ces fameuses années 60 dans la Caraïbe ? Musicalement, peut-être aux Gypsies, ce groupe de compas haïtiens sur lequel, je ne sais pas, vous avez dansé là-dessus, Patrick Charmezeau.
Ah oui, les Gypsies, c'est patient ça. Oui, ce sont des. Le compas direct haïtien est extrêmement puissant.
Problème fini, toujours tout d'air. Faut chercher bien comprendre. Trois pressés, pas j'en fais, je l'ouvris. Et on joue qu'on ça, la chance à ma souris. Avec confiance n'a pas travaillé, avec courage n'a réussi. Faut que nous résilier, malgré tout ça n'a pas subi. Non pas j'en connais qui ça la ripoté. Et on joue comme ça, la chance ça va sourire. C'est toujours avec patience, on joue la réussite.
Dites-moi, avec les gypsies sur RFI, ça sent un peu la fièvre des corps, des langues, des langoustes grillées. Est-ce que derrière le poste, vous êtes client comme notre invité Patrick Charmezau, j'espère. Charmezau qui a un sourire ravageur, un guerrier de l'imaginaire qui a désormais son rond de serviette en sol majeur.
Tu es la femme décharnée qui navigue un enfant mort au sein. Tu es le peuple dématé. Il disparaît dans son souffle, sans poussière aux ravines où ne croit que cette trace. Tu es le loup orgueil qui craque au cœur quand sur la place ne roule plus que le sable où se désécrit ta race.
Est-ce que vous êtes quelqu'un du dedans?
Lointaine, tu t'assieds au plus humble rasier.
Ou du dehors?
Le feu de nous, d'un grouille de mer, où tu nous chantes.
Je suis à la fois du dedans et du dehors. Un peu comme on le disait pour Glissant, la vision du fils et le regard de l'étranger. La situation relationnelle, puisque les peuples antillais et les peuples américains d'une manière générale sont des peuples composites. Ils sont nés dans la colonisation, le génocide amérindien, traite des nègres, esclavage, immigration. Donc c'est véritablement un peuple composite avec un mélange de mythes, de cosmogonie, de langues, de phénotypes, etc. Ce qui fait qu'on est à la fois une réalité nouvelle, mais habitée par les sources anciennes. C'est-à-dire qu'un Antillais, moi, un Martiniquais, je vais en Afrique, je suis dedans et dehors. Mmh. Je viens en Europe, je suis à la fois dedans et dehors. Je vais en Inde, je suis dedans et dehors. On est vraiment dans une situation particulière qui nous a écartés des absolus culturels, identitaires, linguistiques pour nous mettre dans une position frontière entre deux, entre trois ou quatre possibilités, entre plusieurs histoires, entre plusieurs langues, entre plusieurs conceptions du monde. On compose avec tout ça et on se construit de manière individuelle.
Alors aujourd'hui, vous vivez ou vous œuvrez évidemment pour cette créolité, c'est un mot qu'il faut malheureusement nous redéfinir, et vivre cette créolité, c'est, je vous cite Patrick Chamoiseau, laisser vivre le rougeoiement de ce magma. C'est oui. Magnifique, mais qu'est-ce que c'est que ce magma?
Alors, ce qui s'est produit, on peut, c'est une lecture du monde différente qui est celle de Glissant. Il dit la colonisation européenne, c'est-à-dire quand l'Occident a commencé à déferler sur le monde et à conquérir tout ce qui se trouvait en face, le phénomène de colonisation a opéré l'ultime mondialisation. Donc le monde a fait monde à ce moment-là. Et dans les Antilles et dans les Amériques, on a eu la conjonction massive accélérée de plusieurs cultures, de plusieurs peuples, de plusieurs phénotypes, de plusieurs régions.
Plusieurs plaques tectoniques.
Voilà, voilà, c'est des plaques tectoniques humaines qui se sont fracassées dans les plantations esclavagistes et qui ont produit du nouveau. Et ce phénomène de mélange très très difficile, Glissant appelait ça la créolisation. Ce processus global de créolisation a produit des surgissements, des émergences singulières. Donc dans la créolisation caribéenne, on a les créolités qui sont des émergences de la créolisation caribéenne, les créolités singulières, créolité martiniquaise qui n'est pas la créolité cubaine, qui elle-même n'est pas la créolité de Haïti, qui elle-même n'est pas la créolité du Brésil, etc. Donc les créolités, ce sont des émergences de la créolisation.
Mais vous pensez que le monde n'en est plus à la créolité, mais à la mondialité?
Alors ce qui se produit lorsque Glissant a bien analysé tous ces phénomènes et se dire bon, nos peuples sont composites, il a beaucoup exploré la créolisation. Il se dit, mais quel est le principe fondamental à retenir de cette histoire de créolisation? Il dit, mais en fait, ce qui va nous conditionner, c'est que ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'absolu, c'est-à-dire que les cultures, les peuples, les civilisations, même les individus sont beaucoup plus mobiles.
C'est fini les frontières.
C'est fini les frontières, mais c'est aussi, c'est fini les absolus. C'est-à-dire dire que ma langue, c'est la plus belle du monde, ou ma cuisine, c'est machin, ou ma danse, c'est la seule qui existe. Tout ça, ça commençait à se perdre, puisque toutes les danses se rencontrent, toutes les musiques se rencontrent, tous les dieux se rencontrent, et après, il faut composer avec tout cela. Donc, il va extraire de tout cela un élément fondamental qu'il va appeler la relation. Alors, et c'est ça qui fait la situation relationnelle contemporaine, qui est très difficile à vivre.
Comment rentrer en relation avec ceux qu'on appelle aujourd'hui les migrants? Vous qui habitez à 6000 km des côtes européennes, vous observez évidemment le monde et le drame des migrants dans un bel essai poétique intitulé, alors justement, Frères migrants, ce qui, le titre m'a un peu interpellé. Je me suis demandé quel lien il pouvait y avoir entre un migrant qui laisse tout derrière lui et vous, Patrick Chamoiseau, qui avez quand même une vie très confortable. Pourquoi ce titre,
d'abord,
Frères
migrants?
D'abord
parce que dans mes fondements, il y a une immense migration qui, les 12 millions d'Africains qui ont été arrachés, enfin il y a les 12 qui sont arrivés vivants, parce qu'il y en a autant au fond de l'Atlantique, donc les 12 millions d'Africains qui arrivent et qui ont été déportés par les navires négriers, mais dans des conditions qu'on ne peut même pas imaginer, ça nous a alertés sur... Moi, je me suis toujours dit, mais comment pendant plus de 3 siècles, on a pu réduire autant d'êtres humains à des conditions inhumaines? Bon, en plein siècle des Lumières, en 18e siècle, il y a un mystère. Ce qui fait que je suis extrêmement sensible lorsqu'un phénomène de mort massive, répétitive et qui commence à durer dans le temps se produit quelque part. Je dis, mais attention, on dirait que... je dirais pas
c'est
que
le bout de la chaîne.
C'est le bout de la chaîne et puis il y a un retour de l'horreur qui me paraît tellement inattendu en plein 21e siècle que je suis obligé de me dresser, de regarder attentivement parce que je suis déjà sensibilisé à ça. Alors... Donc là, il y a une fraternité de fait. Et puis l'autre élément, c'est véritablement des êtres humains. Comment des milliers d'êtres humains peuvent mourir comme ça en plein 21e siècle aux portes du continent le plus riche du monde? Ça, j'ai du mal à comprendre et à l'admettre.
Mais comment s'emparer de cette question quand on est un poète? La question de migration relève bien sûr de décisions, notamment de l'UE, qui doit gérer, j'ai quand même un chiffre, 160 000 demandeurs d'asile. Qu'est-ce qu'une, entre guillemets, république poétique ou une nation-relation, c'est le terme que vous employez, Patrick Chamoiseau, peut en face, au hasard, d'un ministre hongrois, Viktor Orban, pour ne pas le nommer, qui déclarait par exemple « Les migrants doivent être considérés comme des envahisseurs musulmans
». Ça, c'est vraiment la honte. On a un continent qui a presque 500 ou 600 millions de personnes. On a une France qui a 66 millions de personnes. Et puis quelques milliers de personnes qui arrivent. C'est même pas un tsunami. Mais dire qu'on a là une invasion, c'est simplement un refus d'accepter l'autre. L'autre élément, c'est que nous savons que les migrations ne font que commencer pour de multiples raisons. D'abord, l'exploitation occidentale de tous les pays d'où viennent ces gens, mais aussi les phénomènes climatiques, mais aussi les effondrements économiques ou financiers à venir. Enfin bon, un accident nucléaire peut provoquer des migrations intranationales en France qui peuvent être incroyables et terribles. Donc, on sait que dans les années qui viennent, plus de 50 millions de personnes vont se retrouver dans des mouvements. Donc c'est pas la France avec M. Collomb dans ses petits trucs de police qui va régler ça. C'est pas à cette échelle-là. C'est véritablement une sorte de COP21 de tous les pays du monde qui se rassemblent quelque part et qui se disent, voilà, face au phénomène migratoire, si on ne veut pas laisser mourir des gens sur des barbelés, qu'est-ce que nous allons faire? Comment définir une éthique mondiale de l'hospitalité?
Vous proposez une COP21 de la fraternité?
Voilà.
Vous y croyez
exactement...
vraiment?
Ah bien sûr, il faut... Mais on ne pourra pas faire autrement, parce que les drames humains seront tellement massifs, tellement répétitifs et tellement erratiques. Pour l'instant, ce sont des Africains qui viennent, mais ça peut partir dans n'importe quel sens. Et vous verrez que si on ne le fait pas, on va rentrer dans une barbarie collective de première ampleur.
Une richesse nationale a vocation à être protégée par tous ou par n'importe qui, au gré de ce qui vient, de ce qui va, au gré des expériences. Une richesse nationale qui ne serait défendue que par ses seuls ressortissants ne s'accorderait aucune chance de survie dans le mouvement relationnel. Dans la relation, celui qui ferme portes et fenêtres ou qui se pose en puissance absolue, verticale, intégratrice et assimilationniste, asphyxie à coup sûr ce qu'il aimerait sauver. Celui qui ouvre, qui attire et qui offre ses trésors à la sensibilité relationnelle de tous, fait du monde non seulement sa demeure, mais son bouclier, son gardien et le degré le plus exact de sa richesse. Nul ne s'étonne que ces milliers de personnes veuillent sauter par-dessus la ville lumière, zapper la terre des droits de l'homme pour s'en aller vers l'Angleterre ou vers l'Allemagne. Leur vision particulière du monde peut expliquer un tel dédain, mais je redoute d'y voir le pire, l'attractivité devenue faible de ce que la France a de plus admirable.
En sol majeur, conseil, en marchant sur des œufs, la lecture de ce frère migrant. Merci pour cette lecture. Puisque vous êtes fait de poétique et de voyage, Patrick Chamoiseau, je vous emmène maintenant au pays du Petit Prince.
J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours.
V comme...
Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan.
Vue du ciel.
Alors Saint-Exupéry a été apparemment une inspiration pour vous.
Ah oui, moi ce qui me fascine chez Saint-Exupéry, c'est véritablement la simplicité complexe. Et je me souviens que lorsque j'écris, C'est vrai, j'ai toujours en arrière-pensée l'écriture de Saint-Exupéry, parce que là, il y a une espèce de sobriété, de simplicité, en même temps une complexité inouïe de ce qui est proposé, et il a accompagné mes rêveries, et aussi il fait partie de mon esthétique littéraire.
Alors, quelle est la complexité qui se cache derrière votre nouveau roman, votre polar? C'est vu d'ici, c'est l'histoire d'un tueur en série qui braque son arme sur l'inspecteur Éloi Ephraim Évariste Pilon. Et c'est dommage pour cet inspecteur parce qu'il était au soir de sa retraite. Voilà qu'un bêtiseur, simple colboco, né dans un coin de Caraïbes et qui a passé sa vie au milieu de sociopathes presque insignifiants, se métamorphose en archange de la mort un certain vendredi 13. Vu du ciel, Patrick Chamoiseau, on se demande ce qui a motivé cette rencontre littéraire avec ce tueur.
Oui, non, il ne faut pas oublier qu'un écrivain, c'est d'abord une bibliothèque. Donc, dans ma bibliothèque, il y a énormément de romans policiers. Et je me suis mis à cette affaire avec plaisir, dans un cadre antillais, montrer toute la complexité de la nature humaine. Hein. Nous sommes à la fois la victime et le bourreau. Hein. Nous sommes la lumière et l'ombre. Hein. Et les nazis, c'était des êtres qui étaient comme nous. Les maîtres bourreaux, les capitaines de négociation, ils avaient des familles, ils avaient des enfants, c'était des êtres humains. L'inhumain fait partie de l'humain. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous sommes très rapidement envahis par cette dimension inhumaine de l'humanité. Donc, et ça me paraissait intéressant. Dans le roman policier, c'est véritablement le lieu où la lumière et l'ombre se confrontent, à la fois chez les individus, mais aussi dans les situations.
Alors, quel est l'envers de ce tueur qui dit deux choses ? Détester la jeunesse d'aujourd'hui et sentir du mépris de la part de tous ceux qui débarquent sur les plages de Martinique. Il parle, je le signale, il parle des Haïtiens, des Dominicains et des Saint-Luciens.
Ah oui, chez le Martiniquais ordinaire, on a une pratique xénophobe qui est absolument incroyable. Hein. Il n'aime pas les Haïtiens, il n'aime pas les Dominicains, il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas traité culturellement, il n'y a pas suffisamment de lieux de discussion, la politique s'est réduite à l'économie, donc on ne traite pas toutes ces questions avec la force qu'il le faudrait.
Vous diriez qu'il incarne à sa façon le mythe de la pureté?
Non, il incarne au contraire l'aveuglement que l'on a à soi-même, sur soi-même. Il est véritablement, quand la vision qu'il a de lui-même est une vision qui respecte les valeurs, l'ordre, la justice. Il a beaucoup de respect pour un certain nombre de choses, donc il a l'impression d'être dans le vrai. Et il est le pendant du policier qui lui aussi a les mêmes valeurs. Ça aussi, c'était un petit peu la distance que je mets par rapport aux valeurs. Une valeur, quand on prend une valeur, n'importe quelle valeur, si vous en faites un système, ça peut devenir meurtrier. Bon, regardez comment la valeur liberté, le libéralisme, la philosophie libérale qui était importante, comment elle a été pervertie quand on l'a mise en système économique. Le néolibéralisme, ça n'a rien à voir avec la philosophie libérale qui libérait les individus et nous permettait de sortir des corsets communautaires et de réaliser des potentialités individuelles. Qu'est-ce qu'on en a fait ? On en a fait une machine à broyer les êtres humains qu'est le néolibéralisme économique. Donc il y a tout ce mélange de valeurs étranges, mal employées, déformées chez mon tueur comme chez mon policier.
Mais être français, c'est pas une petite question. Quand on vient de la Martinique, vous êtes géographiquement proche du continent américain, mais la loi est française.
Oui,
comment vous négociez ça, Patrick Chamoiseau?
Moi, je suis pas français, je suis un créole américain. Donc je suis administré aujourd'hui par la France. C'est une situation post-coloniale que nous n'avons pas encore réglée. Donc nous sommes en face de l'ennemi commun pour moi qui est le néolibéralisme avec tout ce que ça implique comme révolution que nous avons à faire. Mais nous devons aussi affronter un vieux cadre archaïque colonial qui fait que nous sommes encore administrés comme une colonie par une métropole qui ne comprend pas qu'il faut libérer les peuples.
Quand on accepte... Vous êtes plus autonomiste qu'assimilationniste.
Non, je suis indépendantiste. Hein. Je suis indépendantiste, c'est-à-dire que moi, bon, j'ai beaucoup évolué sur ça. L'idée d'indépendance rupture, aujourd'hui, dans un monde interdépendant et relationnel, on ne peut plus penser l'indépendance comme on la pensait dans les années 50, mon drapeau, mon hymne national, etc. Donc, pour moi, l'indépendance, c'est la gestion des interdépendances qui nous sont nécessaires. Mais pour gérer ces interdépendances, il faut restituer à nos pays et à notre peuple une souveraineté optimale qui pourrait s'exercer par une adhésion au pacte républicain français. C'est pourquoi cette disposition de la Constitution française qui dit « la France est une et indivisible » est absolument obsolète et merdique. la France considère qu'il n'y a qu'un peuple français, qu'on soit réunionnais, guyanais, tout ce qu'on veut, on est français. Nous sommes des populations. Ça n'a pas de sens. On a bien le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ce sont des peuples qui se retrouvent autour d'un certain une éthique, un mode d'organisation pour habiter le monde. Eh bien, on peut avoir une République française unie où différents peuples, peuple martiniquais, peuple guadeloupéen, peuple guyanais, peuple réunionnais, adhéreraient en pleine souveraineté au pacte républicain français et organiserait un vivre ensemble qui serait un vivre ensemble relationnel. C'est tellement évident et tellement loin de l'esprit colonial qui persiste à se maintenir que ça me paraît sidérant qu'on n'y accède pas tout de suite, quoi.
Cette revendication qui passe par la culture, cette créolité dont on parlait et donc par une certaine antillanité, est-ce qu'elle est synonyme aussi de rejet de la francité ?
Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que la relation est toujours accumulative. C'est-à-dire que dans les années 50, lorsque nous luttions contre les dominations coloniales, c'était « Ah bon, si j'ai la langue créole, je ne veux pas de la langue française. Il faut que la langue française prenne la place. Ah oui, c'est ma danse. Je veux le tambour et pas ceci. Ah, musique classique française, non, j'en veux pas. Je préfère.
Enfin, » Ou.
Alors que c'est « Eh, eh ». C'est-à-dire que maintenant plus, on a... je dirais, une autorité intérieure, une clarification de la complexité intérieure, et qu'on peut se dire, mais attention, le trésor pour nous construire individuellement est rempli de choses qui viennent de la totalité du monde. L'arbre relationnel est beaucoup plus puissant que l'arbre généalogique. Dans l'arbre généalogique, on n'a que ses ancêtres. Dans l'arbre relationnel, on a tout ce qu'on aime, on a les cuisines qu'on aime, on a les musiques qui nous fascinent, des dieux qui nous attirent, des structures familiales ou un mode de sexualité que nous pouvons changer. On a tout. L'arbre relationnel est extrêmement puissant et c'est ça que nous avons à construire.
Le pays vide la parole.
Y a-t-il un proverbe qui gouverne votre existence ?
Là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Pourtant, j'aime bien les proverbes. Ah oui, il y en a un que je dis souvent, c'est « Ouais, misait, pas mort ». C'est-à-dire « Souffrir n'est pas mourir ». Et ma mère disait ça, c'est-à-dire que bon, effectivement, la vie est difficile, bon, je souffre, mais je ne suis pas mort. Et tant que je ne suis pas mort, il y a encore de l'espoir. Donc, on ne disait pas mort.
On y est sur cette planète de l'oralité, attachée à tout ce qui fait la mémoire, attachement aux proverbes, aux comptines, aux titimes, comme vous dites. Qu'est-ce qui fait le génie de l'oralité créole ?
Alors, c'est une oralité de survie. C'est-à-dire que les esclaves se sont retrouvés, en tout cas les Africains capturés sur la côte africaine, se sont retrouvés dans la nécessité de, pas seulement de se libérer, mais de récupérer leur humanité. Parce que l'esclavage de type américain est un processus de déshumanisation, une sorte de damnation ontologique. C'est avec l'esclavage de type américain que la notion d'esclave va se retrouver accolée au phénotype nègre et qu'on va inventer le nègre qui, jusqu'à aujourd'hui, domine dans l'imaginaire mondial. Donc, ces esclaves, pour renaître, il fallait qu'ils récupèrent leur humanité. Et pour véritablement récupérer leur humanité, il n'y avait pas d'autre solution que véritablement de se battre avec tout ce qui était à leur portée en termes de créativité, de création, de musique, de chant, de danse. Et c'est pourquoi la résistance la plus fondamentale aux Antilles a toujours été une résistance créative. Et c'est pourquoi, par exemple, dans les contes créoles, il n'y a pas de morale. Pourquoi ? Parce que la morale de la plantation, c'était la morale du maître. Tu es un bon esclave, tu te tiens bien, tu fais ceci, tu fais cela. Donc, c'était l'ordre établi. Mais le conteur, lorsqu'il transmettait son message, il était complètement amoral. Tu te débrouilles, tu cherches de quoi manger, tous les moyens sont bons, etc., etc. Donc, comme vous entendez les contes créoles, le héros, il est en train de se débrouiller à trouver comment sortir de là à tout prix. Donc quand on analyse ça, c'est ça une culture de survie qui correspond bien à la domination totalitaire de l'esclavage. C'était pas simplement un enfermement physique avec des chaînes, mais c'était aussi un enfermement mental.
Vous êtes aujourd'hui l'un des gardiens de la mémoire collective, Patrick Chamoiseau, mémoire qui passe évidemment par une réappropriation de l'histoire, l'histoire coloniale bien sûr, mais aussi la résistance des nègres marrons. Qu'est-ce que vous savez vous-même sur l'origine de vos ancêtres ? même si l'arbre généalogique, j'ai bien compris, il est beaucoup plus petit que l'arbre relationnel.
Ah oui, il n'arrive pas très loin, puisqu'il y a le gouffre du bateau des Gruyères. Donc, pour faire comme Quentin Quinté de Alex Allais dans le livre Racine qui remonte jusqu'à l'origine, ça peut se faire. Mais c'est extrêmement rare, d'abord parce qu'il y a beaucoup de métissage, que les enfants n'étaient pas reconnus et que la lignée était maternelle. Le père, il pouvait disparaître très vite. Par contre...
Qu'est-ce que vous savez quand même sur cet arbre?
Moi, je sais... À un moment donné, on a retrouvé le bulletin d'individuation de la première esclave qui s'est appelée Chamoiseau. Elle était à Rivière-Salée, qui est une petite commune de la Martinique, et c'est très très émouvant de découvrir ce truc, parce que moi je parle de l'esclavage de manière un peu théorique, intellectuelle, mais quand je vois mon nom, l'origine de mon nom, on me dit aujourd'hui jeune femme créole, ceci se présente et dit s'appeler Caroline Chamoiseau, etc. Et que c'est à partir de là que je vais récupérer le nom de Chamoiseau. Alors là, on a une émotion qui est extraordinaire. Donc, je sais simplement quelle est cette première petite négresse à qui on a donné le nom de Chamoiseau. C'est peut-être un blanc de passage ou un protecteur quelconque qui dit mais je te libère ou je te donne Chamoiseau. Et puis, elle a accédé au registre d'individualité. Donc, je l'ai, tout le monde dans la famille là. Et c'est comme une relique incroyable.
Émission donc dédiée à la mémoire de Caroline Chamoiseau. Est-ce que vous pensez qu'un certain, je sais pas comment on prononce, Lynn Canfrin est un conteur?
Ah oui,
à vos oreilles.
Bien sûr. Pourquoi? Parce que dans le processus de réhumanisation, il y a d'abord le premier résistant, c'est le danseur. Il récupère la mémoire du corps. La danse entraîne le tambouillé.
Le tambouillé, c'est
le joueur de tambour. Il joue du tambour et après vient le chanteur. Et puis progressivement, le chanteur va se mettre à parler. Ce qui fait qu'aux Antilles, on ne dit pas « je vais vous raconter un conte », on dit « je vais vous chanter un conte » parce que le père du conteur, c'est le chanteur. Ce qui fait qu'on a une période intermédiaire dans le développement de la culture antillaise où le chant et la parole se sont un petit peu retrouvés, chevauchés, jusqu'à ce que ça se sépare, qu'on ait d'un côté le chanteur et qu'on ait de l'autre le conteur. Et Lynn Canfrin, il est à la fois chanteur et conteur. Il est dans la partie intermédiaire.
Adédé babaliou, adédé babaliou, d'un décousel koumélélé. Sou volé tan moi moi. Ma tete ni un tiboula et quoi crier loin d'un nègre. Ma travail au Congo. Ma travail au maïme. Travail au Koussel. Kamaye yon a. C'est moi garçon à pompon Berlin. En sorti à Laïsa. Laïsa Congo. Ma travail au Congo. Ma travail Missi Pipi. Et vont mal à bas. Ma kamaye maïoule au Koussel. O Kuselu, Kuselu.
Boule d'ivresse. C'est disparu, vive en moi, par le biais de la pierre. Un chaos de millions d'âmes. Elles comptent, chantent, rient. Certaines veulent me soutenir, d'autres me questionner. Des présences en fait, labiles, rapides. D'autres plus menaçantes sous l'orgueil d'un sacré. Je perçois des grâces féminines habiles à s'approcher de moi. J'erre dans le tumulte d'un charroi d'impossible, éberlué. Je ne ressens plus ces blessures qui me hachent le corps. J'ai atteint une nervure d'alliance entre la mort et la vie, victoire et défaite, temps et immobilité, espace et néant. J'embrasse la pierre comme un être refuge. Je la presse contre moi. Je veux m'y dissoudre et ne rien laisser subsister de mes chairs. C'est alors que je revois le monstre.
Patrick Chamoiseau pour En sol majeur sur RFI. Je souhaitais vraiment qu'on entende ce texte magnifique qui est tiré de L'esclave, vieil homme et le molosse, où vous revenez sur la genèse des peuples caribéens en racontant donc le récit fondateur de cet esclave vieil homme, comme il s'appelle. Et vous posez vos yeux et vos lunettes sur cette pierre amérindienne. Quelle est son histoire ?
Alors la pierre amérindienne, on en a retrouvé beaucoup, ce sont des pierres gravées laissées par les peuples amérindiens. Et la particularité dans la culture antillaise, c'est que la dimension amérindienne est une présence absente. Ils ont été très rapidement génocidés, donc il n'y a plus de peuple pratiquement organisé quand les esclaves africains vont commencer par arriver par millions. En revanche, ils vont trouver tous les vestiges culturels et notamment les pierres. Donc mon esclave vieil homme, lorsqu'il va s'enfuir, il ne va pas s'enfuir parce que ça c'est le vieux drame de la plantation esclavagiste. Lorsque l'esclave s'enfuyait pour échapper à l'esclavage de l'habitation, il voulait retourner en Afrique. Il repartait vers le passé, il fallait qu'il retrouve la terre perdue. Et le drame, c'est qu'on était sur une île, il arrive, il y a la mer, l'océan, le gouffre, il ne sait plus, et il commence à tourner en rond, et il se perd dans le désir de l'Afrique perdue. Mais il y a aussi un autre type de marronnage, c'est-à-dire celui qui va courir vers la nouvelle complexité, il ne retourne pas vers l'Afrique perdue, il essaie de s'enfoncer dans la nouvelle complexité qui lui est donnée, c'est-à-dire assumer l'héritage amérindien, d'où l'idée que mon vieil esclave, au bout de sa course, il trouve toute la culture amérindienne, assumer toute cette dimension africaine, et puis assumer tout ce que les colons et toutes les autres immigrations ont pu donner. Donc mon marronnage, c'est un marronnage hors de l'absolu identitaire, hors de l'absolu communautaire et qui nous précipite dans la relation.
La question de la mort vous travaille bien sûr au point d'avoir pris en charge, je dirais, la disparition de Man Ninotte, votre mère, qui a rejoint le pays des ombres, comme on dit. Et sa disparition vous a permis de mettre en perspective la question d'une autre mort, celle de ces millions d'esclaves perdus dans les profondeurs de l'Atlantique, ce que vous appelez la matière de l'absence.
Oui, c'est-à-dire que chaque fois qu'on perd un être cher, on est confronté à ce que Sapiens a toujours vécu. Une bonne part de la conscience de Sapiens s'est aiguisée quand il a pris conscience qu'il pouvait mourir, que la mort était là. Donc Sapiens va passer beaucoup de temps à contester la mort par tous les rituels, inventer le double,
inventer... Ce que vous avez fait vous-même ?
Mais ce que j'ai fait moi-même, donc je croyais que c'était un truc que je lisais. Et lorsqu'on perd sa mère, et on se retrouve exactement à reproduire ce que toute l'espèce humaine pendant des millénaires a fait. On cherche des rituels, on s'invente une lumière qui continue, on fait des prières pour l'accompagner. Enfin, on entre dans des dispositifs qui sont des dispositifs collectifs. Et bien sûr, quand la mort est là, ça me fait penser à toutes les morts qui sont à la base de la situation antillaise américaine. La mort de l'Afrique, l'épuisement de l'Afrique, la perte de l'Afrique, la perte de ces millions d'Africains qui sont au fond de l'Atlantique, la perte de tous ceux qui ont lutté pour leur humanité, etc., etc., qui ont été torturés, etc., etc. Donc la mort est partout et on s'aperçoit, quoique c'est Héraclite qui le disait, la vie se nourrit de la mort nourrit la vie. Et c'est vrai que nous sommes dans ce drame permanent que nous retrouvons chaque fois que nous perdons un être cher. Donc dans la matière de l'absence, à partir de la mort de ma mère, je vis quelque chose de tout à fait intime et en même temps qui me précipite dans ce que vit à l'échelle la plus vaste et la plus variée, l'espèce humaine tout entière.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci Patrick Chamoiseau.
Merci beaucoup.
Ça vous réussit le jet lag, hein ? Au générique de cet En sol majeur consacré à Patrick Chamoiseau, la silhouette de Man Ninotte, du général de Gaulle, de Louis Jouvet et de quelques esclaves, avec quelques livres sur la table. Frères migrants et la matière de l'absence aux éditions du Seuil. Et pour les amoureux du polar, J'ai toujours aimé la nuit aux éditions Sonatine. Ça va bien, tiens, avec Beethoven. Trouvez pas ? Et sa 7e symphonie.
Excellent.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris, soyez précis. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine avec Jonathan Aovi. À la semaine prochaine.
Géop-